En relisant donc les quatre évangiles, ce qui ressort en premier dans les évangiles, c'est l'intervention dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les quatre évangiles parlent d'un personnage, d'une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Et là, il y a quand même déjà un enseignement. Hein, les anges se sont adressés à Marie, cette Marie qui a été annoncée aux apôtres, etc. Et l'enseignement qu'on peut retirer de ces passages dans les quatre évangiles, c'est que Marie a été témoignée de la résurrection de Jésus. Et je me suis dit, tiens, on va commencer par ça. Parce que ça, c'est la vocation de l'Église. La vocation de l'Église, c'est de témoigner. Amen. Notre service, notre ministère, c'est de témoigner. Elle a été témoignée. Et alors, bien sûr, j'aurais pu prendre des dizaines de textes, de versets qui parlent du témoignage de la résurrection. Quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit qu'il témoignait avec puissance de la résurrection de Jésus. Et c'est ce que Marie de Magdala a fait. Marie de Magdala, elle a été annoncée que Jésus était ressuscité. Et notre vocation, c'est d'annoncer que Jésus est ressuscité. C'est de témoigner. Le témoignage, c'est important, ça, hein? Vous savez qu'il y a une différence entre témoigner et être un témoin. On va s'arrêter un petit peu sur cette première pensée. Témoigner et être un témoin. Des fois, on peut témoigner et après le témoignage. Et des fois, il vaut peut-être mieux moins parler dans notre témoignage et vivre notre témoignage. Pour que les personnes puissent se poser des questions. Mais cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, ils sont différents. Ils sont différents parce qu'ils vivent. Et je crois que ce qui est important, c'est, je le disais dimanche, j'ai eu l'occasion de prêcher dans mon église, parce que je suis en route de secours, hein, et ils m'ont donné l'occasion de prêcher. Et je leur disais que de savoir ce que c'est que la Pâque, c'est une chose. D'enseigner la Pâque, c'est une chose. Pratiquer la Pâque, c'est une chose. Mais vivre la Pâque, c'est encore autre chose. Et ce que Dieu nous demande, c'est de vivre sa parole et entre autres de vivre notre témoignage. Et quand on vit un témoignage, les gens se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est, hein, que cette personne, elle est droite, il est droit, il n'y a pas de grossièreté, il est équilibré, etc. Et les gens se posent des questions, ils viennent nous voir et puis là on peut témoigner. Des fois on témoigne et puis ça ne correspond pas. Et la parole de Dieu nous enseigne à être des témoins. Jésus l'a enseigné aussi, tous ces versets qui me venaient ce matin là, je me suis fait du bien, là. Voilà, c'est tout frais, bon, l'encre elle a séché. Hein. Jésus dit par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples. Hein, c'est le témoignage. Alors, bien sûr, il y a la prédication, mais il y a le témoignage aussi. Dans Marc chapitre 16, verset 15, il dira, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est notre vocation que de témoigner. Et d'ailleurs, il le dit encore dans cette même période. Vous savez qu'entre Pâques et l'Ascension, il y a combien de jours? 40 jours. Voilà, c'est bien, 40 jours. Il dira entre autres dans Actes chapitre 1er verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le témoignage, l'Église c'est un témoignage dans la ville. C'est, le chrétien c'est un témoignage dans son immeuble, dans son lotissement, c'est un témoin à la gloire du Seigneur. Et c'est ce que Marie de Magdala a fait, elle a témoigné de la résurrection de Jésus. Et c'est ce qu'on doit faire, témoigner de la résurrection du Seigneur. J'avais mis sur mes notes 1 Jean 3,18, n'aimez pas en parole, mais en action et avec vérité. Des fois, les paroles, c'est une chose, hein, tandis que quand il y a les actes, quand là, dans Pierre aussi, 1 Pierre chapitre 3, Pierre dit ceci, je passe, ah oui, 1 Pierre 3, je vais vous le citer. Voilà, chapitre, qu'est-ce que j'ai dit ? 1 Pierre 3, versets 1 et 2. J'arrive même pas à me relire, c'est grave. Hein. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Sans parole. C'est un miracle, ça, non? De gagner sans parole. Et le Seigneur dit, mais Et alors que je relisais ce texte, et je pensais à ce témoignage que j'ai vécu. J'étais pasteur à Pertu à l'époque, il y a une trentaine d'années. Et il y a une sœur qui me dit, il faudrait venir me voir et profiter de parler à mon mari. Bon, le mari était inconverti. Et je dis, bon, écoutez, je vais venir. Et des fois, on se fait avoir. Hein. Là, je me suis fait avoir. Et ça a failli même tourner limite. Hein. Et je vais, donc, bon, là, il prépare le café, on boit le café, on commence à discuter avec le mari. Je lui parle un peu du Seigneur. Et puis, l'épouse, elle prend la parole. Et au lieu d'avoir de la compassion, elle commence à dire, « Voyez, pasteur, il fait ceci. Voyez, pasteur, il fait cela. Voyez comme il est. » L'homme, il ne savait plus où se mettre. Je me suis dit, mais si ça continue, il va se lever, parce que l'orgueil, en plus, il n'est pas converti. Il se lève, il m'en met une à moi, quoi. Parce que je suis... Et oui. Et j'avais peur. Je dis, oh là là, mais comment ça va se passer, là? Pourquoi? Parce qu'elle croyait le gagner en le rabaissant. Elle faisait que le rabaisser. Il n'était pas converti. C'est le contraire, il faut essayer d'arrondir les angles et puis de l'amener avec amour dans les voies de Dieu. Mais ça a été une catastrophe. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rattraper à chaque fois le coup, mais bon, c'est pas toujours évident. Et le Seigneur dit, mais essayez de les gagner sans parole, par votre manière de vivre. Hein, voilà. Donc là, il parle de l'épouse, mais de manière de vivre chaste et respectueuse, etc., etc. Hein, donc on peut gagner, on peut être des témoins même sans parole. Jean-Baptiste, il a été appelé celui qui va rendre témoignage à la lumière. Je ne lis pas le texte, hein, mais vous lirez dans Jean chapitre 1, verset 8. Dans Jean chapitre 3, verset 11, il est question de Nicodème. Et là, c'est pareil, Jésus prend la parole, il dit ceci, « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Vous voyez, et nous, on rend témoignage, on parle de l'amour du Seigneur. J'avais pris l'exemple de Timothée. Timothée, il avait reçu un témoignage aussi. Quand il a commencé son ministère, Actes chapitre 16, ça c'est intéressant. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, vous voyez, comme quoi qu'on en apprend tous les jours. Actes chapitre 16, regardez ce qui est écrit, je le lis pour vous. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Un bon témoignage. Et quand on regarde les historiens, ils disent que Timothée est rentré jeune dans l'apostolat. Il avait entre 17 et 20 ans. Il était tout jeune, mais seulement il avait reçu un bon témoignage. Il avait reçu un bon témoignage de la part des frères. Et ça, c'est important d'avoir ce bon témoignage. Ça, c'est la première pensée, le premier événement de cette femme. Je voulais souligner aussi, je vais le souligner, c'est que cette femme, Marie de Magdala, vous savez qu'elle, dans deux évangiles, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc, il est question de cette femme qui était possédée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces passages. Marie de Magdala était possédée de sept démons. Alors, on suppose, ce n'est pas écrit, mais c'est quasiment certain, c'est le Seigneur Jésus qui a délivré cette femme des démons. Alors, on n'est pas là pour parler toujours du diable, mais quand même, hein, le Seigneur nous a donné, frères et sœurs, et ça, je voudrais vous encourager, et il a donné à l'Église l'autorité. Le diable est vaincu. Amen, amen. Hein, c'est pas que de le dire, mais c'est une réalité. Et cette femme a été délivrée. Et Jésus dira dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 17, vous savez, quand les 70 disciples sont revenus, ils diront, mais les démons nous sont même soumis. Et Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et là, il va tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Relisez ce passage. Moi, j'aime ce passage parce que tout son être, là, il va être transporté par le Saint-Esprit. Amen. Et il dira d'ailleurs, je vous ai donné l'autorité. Luc chapitre 10. Allez, je lis pour vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir, verset 19, de marcher sur les serpents, amen, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le Seigneur dit, je l'ai donné. Et quand il envoie, là j'anticipe aussi, quand il envoie les disciples, les apôtres, dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il les envoie pour guérir et pour chasser les démons. Amen. Et ça, il a donné à l'Église. Je citais tout à l'heure concernant l'ascension dans Marc chapitre 16, verset 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'il dit en premier ? En mon nom, ils chasseront les démons. Ensuite, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur travaillait avec eux. Il accompagnait sa parole par des prodiges et des miracles. Que Dieu soit béni. C'est important, le témoignage, et aussi de confesser que bien, le Seigneur nous a donné cette autorité. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Celui qui est en nous, comment il est ? Il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec nous... Deuxième événement, c'est l'événement de Cléopas. Ce n'est pas, Astérix. Hein. Cléopas, vous savez qui c'est Cléopas ? Cléopas fait partie des deux disciples d'Emmaüs. Voilà. Et Cléopas, et là aussi, c'est en même temps, c'est pendant... Ce jour, ce premier jour de la semaine. Et vous connaissez ce passage dans l'évangile de Luc. J'aime bien ce passage parce qu'il y a quand même quelque chose pour nous là. Luc chapitre 24, ces deux hommes, ils sont tristes et Jésus va cheminer avec eux. Vous vous rappelez de ce passage ? Il va cheminer avec eux et il va commencer à leur... Et les deux hommes, entre autres Cléopas, dira « Mais tu es le seul, tu sais pas ce qui s'est passé, on croyait qu'il allait ressusciter, etc. » Et Jésus va commencer à cheminer avec eux. Le texte nous dit qu'il va leur expliquer toutes les Écritures. Alors là, on va s'arrêter sur il y a une sœur qui a prié sur l'Écriture, hein, serrer sa parole, avoir la parole de Dieu. Je dis merci Seigneur. Voilà, tu confirmes un petit peu ce que j'ai eu ce matin. Et il commence à leur expliquer, et ils arrivent à un moment, c'est la soirée. Ils s'arrêtent pour prendre le repas. Vous vous rappelez de ce passage ? Jésus va rendre grâce, entre parenthèses. Nous n'oublions jamais de rendre grâce. Hein. Et oui, c'est important ça. Hein. Chaque jour, chaque matin, petit déjeuner, on rend grâce, au repas on rend grâce, c'est pas que ça, mais quand même, ça fait partie aussi de la vie chrétienne et ça fait partie du témoignage comme on disait tout à l'heure. Donc il va rendre grâce et alors qu'il rend grâce, la Bible nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir, leur cœur va s'ouvrir et Jésus va disparaître, il va disparaître. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Vous vous rappelez de ce passage ? C'est important, on le cite souvent nous les pasteurs, hein ? Notre cœur... Ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures ? C'est tellement important de connaître les Écritures. Et ils sont partis annoncer, entre autres, ils sont partis annoncer aux apôtres aussi hein, que Jésus était ressuscité et qu'il leur était aussi apparu. Il est important de souligner les Écritures. Je me suis souvenu encore dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 47, quand Jésus est âgé de 12 ans. Juste le verset 47, il est dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ses parents vont le chercher pendant 3 jours. Vous vous rappelez de ce passage ? Hein, ils arrivent justement pour la fête de Pâques. Ils arrivent, la fête se déroule, ils repartent au bout d'une journée de marche. Ils se rendent compte que là, il n'y avait plus de GPS, il n'y avait plus d'alerte rouge à la télé. Hein, l'enfant a disparu et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Quand même, quand on se met à la place des parents, hein, je me rappelle une fois, j'ai un fils et 3 filles, un jour, il est toujours en train de bouger, là. On va dans un magasin, il se cachait dans les vêtements. Oh là là, c'est terrible quand on perd quelques instants, là, de suite, on appelle, on fait appeler. Et là, ça faisait 3 jours qu'il cherchait. Et il le retrouve où ? Dans le temple, au milieu des docteurs, et le verset 47. Moi, ça me touche, ça. Il est dit ceci. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et vous savez que Marie dira, mais tous te cherchent. Et vous connaissez cette réponse clé aussi, qu'on emploie souvent aussi. Mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Vous voyez ? Et là, il était imprégné de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse aussi... Qu'on puisse dire comme les deux disciples d'Emmaüs, que notre cœur brûle toujours pour les Écritures. Amen. Ça a été dit, je serre ta parole, c'est le psaume 119. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 115. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est notre nourriture. Hein. Et certainement, vous l'avez lu plusieurs fois, la parole de Dieu, mais elle est toujours là. Et c'est vivant quand Dieu met quelque chose de frais dans notre cœur, que Dieu vous encourage à être toujours des lecteurs et réfléchir et essayer de creuser un petit peu dans la parole. C'est Dieu qui dit à Josué que ce livre de la loi, chapitre 1, versets 8 et 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Maintenant, il faut faire attention aussi avec la parole. C'est dans le 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1, il dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alors, s'il n'y a que la connaissance et qu'il n'y a pas la grâce, qu'il n'y a pas l'amour, tout est fait de la grâce de Dieu. Hein. On est là, frères et sœurs. C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous tient encore debout. Donc, la connaissance est bien, mais l'amour édifie. Et aussi, ce verset qui va avec, c'est dans... Il y a un peu d'écho. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, où il est dit que la lettre, vous vous rappelez de ce passage de Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors la lettre, c'est bon, mais quand la lettre, je ne vous apprends rien, on est des pentecôtistes, hein, quand la lettre est accompagnée de l'esprit, alors c'est tout différent, hein. Ça dispose nos cœurs, ça sanctifie notre âme, ça touche notre cœur, ça nous amène plus loin, ça permet à Dieu de travailler dans notre être par le Saint-Esprit. Amen. La lettre, elle tue, mais l'Esprit vivifie. On a besoin de la lettre, on a besoin de la connaissance, mais on a besoin de l'amour et on a besoin aussi du Saint-Esprit pour édifier. J'ai mis juste avant de partir ce passage, Jean chapitre 6, verset 33. Jean 6, 33, il est dit ceci, je le lis pour vous. J'espère que je ne me suis pas trompé encore. C'est pas possible. Jean 6, 63. Oh là là, décidément. 63. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est Jésus qui parle. Regardez ce qu'il dit. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'Esprit qui... La chair. Celle-là, elle nous fait la guerre jusqu'à la fin. Hein. Peut-être qu'à moi, peut-être pas à vous. Hein. Mais là, on a besoin. Hein. Je traite sûrement mon corps, dira l'apôtre. Hein. Ça, c'est le deuxième événement avec les disciples d'Emmaüs, qui ensuite ont été témoignés. Et il y a un troisième événement. J'y tiens, celui-là aussi, il faut que je le souligne. C'est dans Matthieu, chapitre 28. Vous savez, quand il est question des hommes, des sacrificateurs qui ont payé, vous vous rappelez de ce passage, qui ont payé les soldats pour mentir, pour dire... Quand même, là, il y a un drôle d'enseignement, là, pour dire que c'est les disciples qui ont enlevé le corps. Ils les ont payés pour mentir. Pour accuser qui ? Les chrétiens. Pour accuser les chrétiens. Hein ? Et le mensonge, on sait de qui vient le mensonge. Hein ? Le mensonge vient de l'ennemi, vient du diable. Hein ? Jésus dira, vous avez pour père le diable parce qu'il est menteur dès le commencement. Hein ? Et ils les ont payés pour... Ils ont fait courir, oui, c'est ça. Ils ont fait courir le bruit que c'était les disciples qui avaient des faux bruits. Que Dieu nous garde des faux bruits. Hein. Faire courir des faux bruits, des calomnies, etc. Et c'est marrant, hein. C'est toujours la faute des chrétiens. Hein. Ou des chrétiens en général. Hein. Ça peut être les chrétiens, les pasteurs, etc. Mais l'ennemi, il nous accuse. Et j'ai relevé ce passage aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Il est dit que le diable nous accuse. C'est l'accusateur des frères. Et là, c'est pareil. Ils ont tout fait pour accuser les chrétiens. Hein, ils les ont payés pour mentir. Et c'est l'accusateur des frères. Il nous accuse jour et nuit. Jour et nuit. pour répandre des faux bruits. Oui, c'est les chrétiens qui ont fait ceci. Et ça me faisait penser, je ne sais pas si vous avez suivi, pendant le Covid, quand il y a eu la première vague du Covid, et que c'était parti, soi-disant, de Mulhouse. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Ouais, ils ont tapé à tour de bras sur les... pensez là, ils se sont fait des gorges chaudes. Hein. C'était les évangéliques et ceci. Et ils ont tous mis dans le même sac, hein, pour faire courir le bruit que... Voilà, c'était à cause d'eux, quoi. À cause d'eux. Un petit peu comme pour accuser aussi les disciples. Que Dieu nous aide. Hein. Je pensais à l'histoire de Néron. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici. L'histoire de Néron, à l'époque, l'empereur Néron, il avait fait accuser les chrétiens parce qu'ils avaient mis le feu à Rome. Ils avaient, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rome. Rome a été brûlée. Et Néron disait que c'était les chrétiens qui avaient mis le feu. Que c'était les chrétiens. Alors, vous savez ce qu'il a fait, Néron ? C'est pas beau, hein, les massacres qu'il y a eu à l'époque de Néron. Des centaines et des milliers de chrétiens ont été crucifiés, ont été brûlés. Néron se servait des chrétiens. Il les remplissait de bitume et il les empalait sur des poteaux. Il mettait le feu et il se servait pour éclairer ses champs de course. Et il disait, oui, lisez l'histoire, vous verrez. Il les enduisait de bitume et il faisait marcher ces chars là, ces courses nocturnes avec les chrétiens qui étaient embrasés comme des torches. Et il disait, oui, il accusait. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Hein. Le Seigneur, lui, il est notre avocat. Amen. Et il plaide non coupable. Amen. C'est lui qui ôte le péché, c'est lui qui nous nettoie, c'est lui qui nous purifie. Et je termine avec les deux derniers événements. Toujours dans ce même jour, hein, dans Jean chapitre 20, il est question de Marie de Magdala qui va annoncer, et Pierre et Jean vont courir. Vous vous rappelez dans les versets premiers, Jean chapitre 20, verset 1, verset 2, ils vont courir. Je me dis, tiens, là aussi, il y a quelque chose à souligner. Notre vie chrétienne est comparée à une course. Je ne sais pas si vous courez. Qui c'est qui court ici un peu ? Ne levez pas la main tous. Ne levez pas la main tous. Ou marcher, il faut faire de l'exercice. Et là, il est question de courir. Pierre et Jean ont couru. C'est Jean qui est arrivé le premier. On sait pourquoi, Jean, parce que c'était le plus jeune. Il est arrivé le premier. Et puis, Pierre ensuite est arrivé. C'est lui qui est rentré. Mais il a couru. Et la Bible nous enseigne à courir, hein. Il y a beaucoup de textes aussi qui nous parlent de la course. Notre vie chrétienne est comparée à une course. Philippiens chapitre 3, je voudrais le souligner pour vous encourager, vraiment pour vous encourager. Philippiens chapitre 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Amen. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Amen. Et là aussi, ça m'a fait du bien parce qu'il dit, j'ai été saisi, que le Seigneur puisse toujours nous saisir par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Amen. Et spirituellement, bien sûr, si on ne peut pas physiquement, mais on peut spirituellement toujours aller de l'avant et courir. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26, il est question de la course. Vous savez, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, compare la vie chrétienne à un sportif, tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et j'aime cette phrase, courez de manière à le remporter. Courons de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous savez, les sportifs, il faut qu'ils soient toujours au top, 100%. Et dès qu'ils sont à 80%, hop, ils sont un peu mis de côté, il faut qu'ils se reprennent, régime, etc., etc. Paul dit ceci, moi donc je cours, verset 26, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je cours. Puis il y avait ce passage aussi qui m'est venu à l'esprit, Galates chapitre 5, verset 7, quand il s'adresse aux Galates, verset 7 à 9, il dit, vous couriez bien. Vous rappelez de ce passage ? Qui vous a arrêté ? Cette influence, l'influence, et on pourrait parler, là, c'est encore un sujet de prédication, ça. Cette influence ne vient pas de Dieu, et vous savez ce qu'il rajoute ? Qui se souvient ? Les théologiens. un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous courez bien, qui vous arrêtez? Cette influence ne vient pas de Dieu. Il dit, mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Il y a eu la Pâque, les Juifs ont fêté la Pâque. Et vous savez, quand dans les maisons juives, il fallait que tout enlever le levain. Jésus dira, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Soyez une nouvelle pâte, faites disparaître le vieux levain, etc., etc. Et voilà, un peu de levain fait lever toute la pâte, et que le Seigneur nous garde toujours. Moi, c'est ma prière, je vous fais un aveu, là, ma prière, Seigneur, garde-nous toujours dans l'humilité. Si Dieu, je le dis des milliers de fois, si Dieu voit de l'orgueil, on est fichu, frères et sœurs. Il faut que Dieu nous garde dans l'humilité. Dans l'abaissement, c'est celui qui s'abaisse, c'était pas prévu ce que je vous dis là, c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Amen. Si Dieu voit un cœur humble, même si on n'a pas toutes les compétences, mais Dieu veut voir un cœur humble, il va se servir d'un cœur humble. C'est obligé, hein, parce qu'il va être malléable et il va rester toujours sensible et petit devant le Seigneur. Garde-moi petit, Seigneur, garde-moi petit. Donc ils ont couru, et bien sûr, et on sait ensuite ce qui s'est passé. Et dans ce même passage-là, après avoir couru, Jésus va se présenter encore, toujours le premier jour. D'ailleurs, il le dit dans Jean chapitre 20, regardez, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, donc du premier jour de la semaine, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Vous savez, ils étaient dans la crainte, vous vous rappelez? Et Jésus était déjà avec un corps glorifié, le corps qu'on aura quand le Seigneur... Amen! Quand le Seigneur va venir nous chercher. Amen! Corps glorifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière, il n'y a plus de puissance sur la matière. Il a traversé... Les portes étaient fermées. Il n'a pas ouvert la porte. Il est passé à travers... Oui, ça c'est le corps glorifié. Et je me suis dit, tiens, je vais terminer avec cette belle parole. La première parole de Jésus, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il dira? La paix, ça a été sa première parole, hein, quand il ressuscite. La paix soit avec vous. Il va leur montrer ses mains, il manquait aux mains, vous vous rappelez, 7 jours après, il refait la même chose et il voit Thomas. Mais la paix, amen, là aussi encore un sujet. Ce qu'il faut, c'est la paix, amen. S'il y a la paix dans nos cœurs, s'il y a la paix dans l'Église, il y a la croissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est important ça. J'ai cité de mémoire Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tous ne seront pas fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui procurent la paix. Ce sont ceux qui font tout pour la paix. Là aussi, ce n'était pas prévu, je laisse parler mon cœur, mais... Qu'on puisse être des hommes et des femmes de paix. Faisons tout pour la paix. Amen. Même si des fois, ça arrive que ça coince. Ça coince des fois. Ça coince avec les enfants, ça coince avec la... Jamais avec l'épouse, jamais. Ça coince des fois peut-être un peu aussi avec l'un, avec l'autre. Mais soyons des hommes de paix, des femmes de paix. Je vous en supplie, la part de Dieu. Hein, soyez heureux ceux-là sont appelés fils de Dieu. Tous ne seront pas appelés fils de Dieu. Sont fils de Dieu ceux qui procurent la paix, ceux qui font pour la paix. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix. Nous, on aime bien la deuxième phrase. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors nous, les pasteurs, nous, on met l'accent, ouais, la sanctification. Mais il n'y a pas de sanctification s'il n'y a pas de paix. D'abord, rechercher la paix, et ensuite, la sanctification, hein, elle va venir. S'il y a la paix, il y aura la sanctification. Allez, on termine avec un dernier verset, Actes chapitre. Vous avez vos Bibles? Ça va. Ça va. Je vous aime, mes frères et mes sœurs, vraiment. Actes chapitre 9, verset 31. L'église d'Aubagne, elle rentre là-dedans. Était en paix. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et là, il y a la croissance. Qu'on puisse vivre ça dans nos églises. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit quand l'Église est en paix. Et il y a la croissance. Et des baptêmes bientôt. Et qu'il y en a encore des dizaines de baptêmes. Des dizaines de baptêmes. Que l'Église puisse croître par l'assistance du Saint-Esprit. Mais au départ, il faut qu'il y ait la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abondamment.